Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 septembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Là aussi, on essaye en tout cas riche et diversifiée avec, on va parler notamment et faire connaissance, peut-être si vous ne l'avez pas déjà croisé, avec le nouveau sous-préfet de Château-Gontier, Samuel Gesseret. Il nous expliquera un petit peu son parcours et ses missions. Et puis aussi, on va aller voir du côté de Mayenne pour une nouvelle saison musicale. Ça s'appelle Pampa et c'est proposé par une association que vous connaissez bien sans doute, vous l'entendrez. On va aussi aller interroger un champion du monde espagnol. D'icosathlon et il est mayennais, il nous expliquera quelle est sa discipline. Et puis on poursuit là aussi notre feuilleton engagé depuis lundi autour des animations, autour des journées européennes du patrimoine. Et là ce seront notamment les archives départementales qui vont nous proposer pas mal de choses ce week-end. Et notamment vous pourrez y écouter tout un fond d'archives autour du patois et d'ancienne musique mayennaise à découvrir ce week-end. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Avec une quinzaine de collégiens blessés dans un accident de bus ce matin à Changé, le véhicule seul en cause aurait quitté la route et grimpé sur une butte. Les pompiers ont été appelés pour cet accident vers 8h. À bord du bus, 29 passagers, des élèves du collège Jules Renard à Laval et la conductrice. 15 d'entre eux sont blessés, dont 2 plus gravement, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Une cellule psychologique a été ouverte à l'atelier des arts vivants à Changé. Une enquête est aussi ouverte en parallèle. Selon Ouest France, l'hypothèse d'un malaise de la conductrice est prise en compte. 23 personnes évacuées après un départ de feu dans une cuisine. L'incendie s'est déclaré hier après-midi vers 16h30 au 6e étage d'un immeuble situé rue Bessières à Laval à cause d'un appareil électroménager qui s'est enflammé. 23 personnes ont été évacuées par les pompiers, mais toutes sont saines et sauves. 3 appartements en revanche ne sont plus habitables. Leurs occupants vont être relogés par des proches. Une mission de 15 jours pour aider en Guadeloupe et en Martinique. 2 sapeurs-pompiers de la Mayenne sont de retour après avoir renforcé les équipes sanitaires sur place entre le 20 août et le 6 septembre. Une rencontre avec Olivier Richefou, le président du département, est prévue ce soir au 10:53 à Saint-Berthevin. Eux réclament plus de moyens pour l'éducation nationale. L'intersyndicale CGT-FO-FSU Solidaire appelle à un rassemblement jeudi prochain, le 23 septembre à midi et demi, place du Jet d'eau à Laval. Ils dénoncent les suppressions de postes dans le second degré, la précarité des AESH qui aident les enfants en situation de handicap et la volonté d'expérimenter le recrutement des enseignants par des directeurs d'école. Les ciné-débats de retour au Palace à Château-Gontier, et ce dès ce soir à 20h30 avec le film « Des hommes » de Lucas Bellevaux, où on retrouve différents personnages qui ont participé à la guerre d'Algérie et leurs souvenirs. Souvenirs qui reviennent même 40 ans plus tard. La projection sera suivie d'un échange avec Alain Vignier, membre de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne. Tarif de la séance, 5 euros. Il est arrivé en Mayenne tout début septembre, en remplacement de Richard Mire. Samuel Gesseret est le nouveau sous-préfet de Château-Gontier-sur-Mayenne, avec un parcours un peu atypique, puisqu'avant d'être sous-préfet, il était colonel hors classe de sapeur-pompier. Écoutez.
Mon parcours avant d'arriver ici, j'étais sapeur-pompier, donc j'ai eu un gros parcours sécurité civile, avant de passer 10 ans au ministère de l'Intérieur, notamment sur la gestion de crise, un poste en cabinet ministériel comme conseiller, toujours sur la partie sécurité civile et... Ici, j'arrive dans le département de la Mayenne pour mon 3e poste de sous-préfet après Chinon et Saumur. Et j'occuperai sur le département donc 3 postes, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Laval et sous-préfet de Château-Gontier. Non, je ne connais pas le territoire et on n'est jamais affecté dans un département dans lequel on a des attaches. Donc c'est fait exprès et donc on découvre forcément le territoire sur lequel on va aller. Donc et pour éviter tout conflit d'intérêt, ce qui m'intéresse c'est véritablement, au-delà de cette partie technique et du nom, c'est effectivement les enjeux de ce territoire, son patrimoine, ses atouts, ses enjeux, les dossiers du moment, les difficultés également qu'on peut avoir. Voilà, découvrir le territoire en profondeur. Un département très attractif. Actif, dynamique, etc. Et donc je ne pense pas me tromper. Ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, avec ma courte expérience d'une semaine ou de quelques jours, effectivement, confirme ces dires. Donc je suis ravi d'avoir été affecté sur ce territoire. Les missions, c'est une mission d'accompagnement des élus dans leurs différents projets. Donc déjà, dans un premier temps, découvrir le territoire, découvrir ce qu'on y fait. Mais quel que soit le spectre, qu'on a aussi bien des problèmes de police administrative, on a évoqué la crise Covid qui n'est pas complètement terminée, sur lequel on va forcément avoir une attache très particulière pour permettre notamment à notre économie, mais surtout sur le plan social, humain, de sortir effectivement de ce tunnel. Mais après, c'est la gestion de tous les projets portés par les collectivités notamment, et puis tous les autres projets qui me seront confiés, mais ça sur ma casquette de secrétaire général, que ce soit les problématiques d'urbanisme, d'environnement, des étrangers qui arrivaient sur le territoire, enfin voilà. Essentiellement, la crise sanitaire, effectivement, dans les dossiers compliqués aujourd'hui, c'est vraiment une priorité parce que c'est nécessaire si on veut arriver à faire vivre pleinement les autres projets et puis que nos administrés puissent vivre avec beaucoup d'oxygène et voilà, qu'on puisse vraiment enlever les masques, qu'on puisse voilà, vaquer nos occupations et vivre un petit peu normalement. Voilà.
Samuel Jesseret, qui occupera donc aussi le poste de sous-préfet de Laval et de secrétaire général de la préfecture de la Mayenne. Mieux qu'un festival en été, des concerts toute l'année. C'est une volonté de l'association Tribu Familia qui organise déjà le festival Un singe en été à Mayenne au mois de juin. Elle lance à partir de samedi une nouvelle programmation tout au long de l'année, avec des concerts donc tout au long de l'année intitulée Pampa. Steven Jourdan, son programmateur, nous explique pourquoi.
Pour être complémentaire avec ce qu'on pouvait faire sur l'événement de fin juin, pouvoir avoir cette présence à l'année-là, qui va nous permettre de défendre des esthétiques qu'on n'avait pas l'habitude de faire aussi sur le festival, parce qu'un festival, c'est aussi toute une logique de programmation qui n'est pas nécessairement la même que sur une saison, de pouvoir naviguer aussi dans des lieux différents, la salle polyvalente, le cinéma, des bars, le théâtre, dans des lieux comme ça qui sont un petit peu emblématiques, et puis peut-être des lieux un peu plus privés aussi des fois, on verra bien là où ça nous mène. L'origine, c'est l'envie des bénévoles et puis nous, salariés, de proposer quelque chose plus long à l'année aussi directement, d'avoir l'impression de rester sur notre faim au moment du festival. Puis il y a plein d'artistes qu'on voulait pouvoir proposer, qu'on faisait pas, donc là au moins on va pouvoir le faire, je l'espère en tout cas. Puis, je pense que c'est un besoin aussi à un moment sur Mayenne, c'était chouette d'avoir des concerts tout au long de l'été, mais on n'avait plus rien l'année. Enfin, ça tombait, il y avait quelques petites choses qui étaient organisées hein, et on va travailler en complémentarité avec ces choses-là aussi. Mais là, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose au long cours, de travailler auprès des publics au long cours, ça va être chouette. Alors là, sur la programmation de cette année, de la première partie en tout cas, on va faire un artiste par exemple, qui s'appelle Yolande Bashing, au 18 septembre, donc qui est un artiste qui vient de Lasser les Châteaux à la base, qui est à Lille maintenant, et qui du coup, pareil, sur le festival, on aurait pu le faire, mais on l'aurait fait sur une petite scène à côté, là on l'a vraiment mis en avant, on voulait le mettre un petit peu en avant aussi, parce que son projet est vraiment chouette, on est sur un projet qui navigue entre la chanson et la techno, donc c'est quelque chose qui est intéressant à développer, donc ça va nous permettre d'aller chercher un public aussi différent. Un projet comme Bachar Markhalifé, qu'on fait le 27 novembre, qui là vient plutôt sur un côté piano, world, jazz, mêlé aussi un petit peu d'électro, qui va sur un public qui est compliqué forcément au festival, parce qu'on est sur quelque chose à l'écoute principalement, donc sur un temps de festival avec des bars partout, avec le bruit tout autour, c'est particulièrement difficile à faire, enfin ça se fait, hein, mais c'est particulièrement plus compliqué, donc là au moins on aura vraiment une écoute plus intéressante de l'artiste, donc ça nous permet aussi de le faire à ce moment-là, c'est de faire en complémentarité des choses que les autres ne font pas forcément, ou mettre en place des choses ensemble, c'est ce qu'on dit, on a la date des émergences par exemple, qui est faite au mois de janvier, qu'on réalise avec le kiosque, il y a ce ciné-concert qu'on va faire aussi au mois de décembre, avec Fargo et le groupe Fragment, qu'on fait donc le 16 décembre, donc avec le Vox, donc on complète aussi à ce niveau-là.
Et pour retrouver toute la programmation et la billetterie en ligne, il faut aller sur pampa-mayenne.fr. L'association Tribu Familia organise d'ailleurs ce samedi, avant le concert à 18h, son AG au bar La Carotte, c'est à Mayenne. Vous pouvez aussi y aller si vous êtes intéressé pour devenir bénévole. Et ce sera suivi du concert à 20h30 de Yolande Bashing. Yolande Bashing dont on va justement écouter le titre dès à présent, Daily.
Salut. Comment ça va bien? Et toi alors? Super, tout le monde va bien. Des fois, je sais pas quoi te dire. Quand tu respires devant moi, c'est vrai. Je sais pas quoi te dire. J'arrive du bout de mes doigts.
c'était Daily de Yolande Bashing. Yolande Bashing que vous pourrez donc retrouver en concert à Mayenne samedi à 20h30. Vous n'aimez pas trop le sport ? Eh bien c'était aussi son cas il y a quelques années et pourtant aujourd'hui Hugo Cisterne est champion du monde espoir d'icosathlon. L'icosathlon, donc plusieurs épreuves combinées d'athlétisme, un titre obtenu il y a quelques semaines à Épinal. Le licencié du club d'athlétisme de Saint-Berthevin ne s'y attendait pas forcément, mais pourtant il s'est déjà fixé d'autres défis. Rencontre avec le champion et son entraîneur.
Bonjour, moi c'est Hugo Cisterne, donc j'ai 21 ans. Je fais de l'athlétisme depuis 2015 et je suis en management du sport à Laval.
Et là, il y a maintenant une dizaine de jours, vous êtes devenu champion du monde d'icosathlon. Qu'est-ce que c'est que ça déjà, l'icosathlon ?
Donc l'icosathlon, c'est 20 épreuves d'athlétisme en 2 jours. Donc il y a tous les sauts, tous les lancers et toutes les courses du 100 mètres aux 10 km.
Dans ces cas-là, vraiment, on se doit de faire tout. Comment on fait pour justement être capable de faire toutes ces disciplines ?
Et bah, du coup, il faut gérer, surtout au niveau des entraînements, essayer de toucher à tout un peu. De faire des multiséances, puis s'entraîner un peu en faisant du décathlon, tout ça, ça aide forcément à la préparation. Et puis, essayer de s'adapter, c'est surtout ça le mot d'ordre, quoi.
L'athlétisme seulement depuis 2015, est-ce que vous avez fait d'autres sports avant ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'athlétisme ?
Alors, j'aimais pas trop le sport avant, l'athlétisme. C'est vrai, même en 2015, quand j'ai commencé, j'allais jamais vraiment à l'entraînement. C'est plus en 2018, quand j'ai été à la meilleure expérience avec Kevin Mayer, qui a organisé un décathlon sur les plages de Saint-Jean-de-Mont. C'est là que j'ai commencé à découvrir un peu vraiment l'athlétisme et le décathlon, et ça m'a vraiment. J'ai vraiment adoré, donc c'est à partir vraiment de là que je me suis dit que je vais y aller à fond, quoi. Mais avant, j'étais pas du tout sport, quoi.
À ce moment-là, quand vous vous êtes dit « il faut y aller à fond », ça s'est matérialisé comment ?
Et du coup, je me suis mis à avoir des objectifs et à me mettre donc au décathlon et à essayer de m'entraîner beaucoup plus sérieusement et rigoureusement avec mon coach. Donc ça a tout changé, quoi.
Dans ces cas-là, justement, par quoi on commence ? Peut-être c'est justement le travail avec votre coach. Je vais vous laisser vous présenter aussi.
Donc moi, c'est Olivier Bonsargent. Je suis donc le coach d'Hugo sur une grande partie des disciplines. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Donc il va aussi voir quelques spécialistes de la Mayenne qui maîtrisent beaucoup mieux que moi. Alors moi, je suis plutôt sprint et maintenant sur des entraînements plus longs, demi-fond, je m'en sors. Honnêtement, sur la perche, je m'en sors pas. Et sur le marteau, je ne m'en sors pas non plus. Donc pour le marteau et le disque, Hugo va au stade, Lavallois. Et il a fait des séances de perche à une époque au stade. Et là, il a fait quelques séances à Château-Gontier. Donc voilà, avec Eric Gicot sur l'entraînement des perchistes. Voilà, donc c'est vrai que l'icosathlon, il faut toucher à tout. Maintenant, Hugo reste plutôt sur des distances qui lui sont favorables, qui sont le sprint. Les lancers où il est plutôt bon. Après, les épreuves très longues, 5000, 10000, là on est dans de la gestion. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Donc là sur le 10 km, il avait son footing long une fois par semaine. Voilà, c'est pas voilà. Les coureurs de 10000 diront que c'est une hérésie, mais dans son cas, il fallait bien faire des choix. Donc les épreuves 5000, 10000, elles sont pas vraiment préparées, voilà. Et puis derrière, en plus, ces 20 épreuves, le 10000 a lieu, c'est la 20e épreuve. Donc tout dépend de ce qui s'est passé avant. Voilà. Mais après, quand Hugo disait qu'il n'était pas branché ou il faisait 2 séances en touriste, maintenant il fait 7 séances sérieusement. Donc forcément, ça change tout.
Mais j'imagine que c'est une sacrée organisation parce que autant de disciplines, visiblement des entraîneurs différents aussi. Comment est-ce qu'on gère tout ça ?
C'est de l'organisation. Moi, ça va, je suis assez organisé. Donc, après, on planifie tout ça avec le coach. On a un planning chaque semaine, des entraînements. Et puis, en fonction des disciplines, je vais à droite, à gauche. Donc, c'est tout dans l'organisation.
J'imagine que parmi toutes ces disciplines, il y a forcément certaines où vous êtes plus à l'aise ou qui vous plaisent plus.
Moi, c'est les haies. Ça, c'est ma spécialité. Ce que j'aime le plus, c'est celle où je suis le plus fort, de toute façon. Après, sinon, les lancers, j'aime beaucoup aussi. C'est totalement différent des courses et tout. Donc, vraiment, même au niveau des entraînements, c'est vraiment ce que j'aime bien. Et puis, le demi-fond, c'est ce que j'aime le moins. Ça, c'est clair. Vraiment, courir longtemps, c'est vraiment pas ma nature. 10 km, il y a le 5 km, il y a 3000 steeps, tout ça, donc faut aimer. Bon, ça va, je me force, c'est pas non plus un calvaire, mais un petit peu quand même des fois, donc voilà. Puis les sauts, ça dépend, sans longueur, triple saut, j'aime bien, sans hauteur aussi, mais sur la perche, moins. Donc voilà, on s'adapte.
Là, sur cette compétition, c'est donc les championnats du monde espoir, il y a 10 jours. Comment ça s'est passé ?
Et j'ai entamé la compétition avec une cheville en moins, parce que je m'étais fait une entorse un mois avant. Donc je l'ai fait sous anti-inflammatoire, je l'ai fait à la Kevin Mayer. Et c'est passé, donc j'ai eu forcément mal à certaines épreuves. Mais ma préparation, du coup, elle était un peu, j'étais moins bien préparé, quoi, forcément, avec cette cheville en moins. Mais heureusement, tout le travail qu'on a fait à l'année, ça a quand même bien payé. Donc, je m'en suis sorti comme je pouvais, quoi. J'ai tout donné la première journée. Et puis, la deuxième journée, j'ai essayé de sécuriser un peu. Et au moins, l'objectif principal, c'était de finir l'icosathlon. Parce que sinon, fallait pas que je me blesse ou quoi que ce soit, quoi.
Vous n'aviez pas forcément du tout d'objectif de place, en tout cas, en partant ?
Ah non, c'était vraiment juste finir l'icosathlon. C'était vraiment l'objectif principal, prendre plaisir. Et après, le reste, c'était que du bonus. Hein. Ça viendra comme ça viendra.
Un titre comme ça, avec même une cheville en moins, ça vous impressionne aussi ? Vous vous attendiez à ça ?
Alors, quand il s'est lancé le défi l'année dernière pour son premier, je lui dis qu'il était fou. Mais enfin, il sortait du confinement, il avait du mal à se mobiliser. Et comme il aime faire beaucoup de choses, une seule discipline, c'est pas suffisant. On a dit « Ok », je lui dis « T'es fou, mais on va y aller ». Et cette année, c'était plus clair. L'objectif était plus clair. Donc, voilà. Alors, sa cheville en moins. Oui, alors il dit qu'il a pas travaillé, c'est faux. Il devient un nageur émérite, en fait, puisqu'il a nagé. Et puis, il a fait le travail en musculation, était plutôt en endurance musculaire. Ce qui fait qu'il est arrivé effectivement pas préparé sur de l'explosivité, mais sur le long terme, voilà. Il dit qu'il n'aime pas le demi-fond. L'année dernière, il a préparé les épreuves de demi-fond sur un rameur, puisque courir longtemps, c'est compliqué, donc on avait trouvé la stratégie du rameur. Voilà. Le rameur, c'est plus sympa que de courir longtemps autour de la piste. Mais ça reste impressionnant, puisque faut se lancer le défi. Effectivement, c'est des choses on parle beaucoup de choses ultra maintenant, ultra trail, les ultra triathlons, etc. Ça en fait partie. 20 épreuves, ça en fait partie. Puisque c'est une discipline, il me semble, qui existe depuis le début des années 80, qui a plutôt été c'est un Finlandais d'ailleurs qui a dû lancer ça, il me semble. Et c'était relativement peu pratiqué en France. Ça commence à s'ouvrir, semble-t-il. Donc voilà. C'est son défi, voilà. Donc il y a un autre défi pour l'hiver prochain et un autre pour l'été prochain, on verra.
Vous avez déjà d'autres dates et d'autres objectifs en tête ?
Ouais, du coup, il y aura les championnats du monde en salle, donc fin mars. Donc là, ce sera en France aussi. Donc là, c'est 14 épreuves, parce que c'est toujours le double des combinés classiques. Donc là, c'est pas un heptathlon, c'est un tétradécathlon. Et donc fin août de l'année prochaine, il y aura les championnats d'Europe, donc là en extérieur, sur l'icosathlon. Et on ne sait pas encore où c'est, mais ce sera fin août.
Forcément maintenant, des épreuves combinées, en tout cas, vous ne voyez pas faire autre chose.
Ah oui, bon, c'est clair. Après, je continue toujours le décathlon, l'heptathlon ou même des épreuves individuelles par-ci par-là, mais ça, j'abandonne pas parce que j'aime toujours en faire. Mais oui, le gros objectif principal, ça reste vraiment les combinés, les ultra-combinés, quoi. Je serai toujours dans la catégorie espoir.
Après, la catégorie au-dessus, il y a sans doute aussi d'autres concurrents.
C'est la catégorie senior, donc là, c'est beaucoup plus dur forcément. La zone d'âge est plus élargie, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Donc forcément, là, va falloir y aller, quoi. Ce sera un vrai défi.
Justement, votre entraîneur disait ça, le confinement, il y avait cette envie de refaire du sport. Beaucoup de sport, ça a aussi motivé là, cet engagement, cet entraînement.
Oui, ça c'est clair, parce que rester enfermé vraiment toute la journée, c'est vraiment pas mon truc. Moi, je préfère vraiment bouger, sortir, être dans la nature, sentir l'air libre. Donc vraiment, ça m'a donné encore plus envie de bouger. Puis ça m'a donné des objectifs un peu fous comme l'icosathlon. Donc comme ça m'a réussi bien, tant mieux.
Là, ça veut dire que concrètement, par semaine, on est sur un entraînement par jour à peu près ?
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, c'est pas forcément que de l'athlétisme. Il y a de la musculation, il y a de la préparation physique, il y a un peu de tout. Mais c'est ça, un entraînement par jour.
Vous avez vu aussi son évolution, j'imagine, depuis quelques années, puisque ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait de l'athlétisme. Aujourd'hui, vous êtes fier aussi de l'accompagner ?
Forcément, mais le but... Moi, je m'estime comme un passeur, donc il a des objectifs, on essaie de les remplir. On a une boîte à outils, on essaie de. Voilà. Parce que, effectivement, là, 20 épreuves, c'est aussi nouveau pour moi. À la limite, un participant à décathlon, on sait, 10 épreuves, c'est connu dans la clé. 20, c'est un peu différent, donc on invente. Voilà. Donc on tente des choses, ça fonctionne pour l'instant, on verra la suite.
Là, vous avez fait des entraînements peut-être spécifiques pour Hugo que vous n'aviez pas fait auparavant.
Il faut s'adapter, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les créneaux, les canons de l'entraînement, et puis il y a les personnes, c'est aussi ça. Il y a l'individu et comment il s'adapte aux entraînements et ce qu'il a envie. Voilà, parce que bon, Hugo fait des compètes classiques, mais sur les compètes classiques, il fait 5-6 épreuves. Donc là où il y en a qui vont faire un 100 mètres, lui il va faire le 100 mètres, le 110, il va faire la longueur et puis il va faire les lancers derrière. Donc voilà, cet été, ça a été ça. Voilà, donc on dit, bah, il a fait ça sur 400 mètres. Ouais, mais en fait, il avait fait déjà 5 épreuves avant. Donc voilà, il a besoin de ça. On tentera quand même quelques épreuves où il ne fera qu'une chose. Parce qu'il a un défi qui est de 400 mètres sans avoir rien fait. Donc voilà, puisqu'il a, c'est un temps un peu vraiment mauvais, hein, sur son 400 mètres à l'équidathlon. Donc c'est un nouveau défi là. Un 400 sur une où je ne fais qu'une épreuve. Voilà.
C'est des haies, là, ce sera peut-être plus facile, non ?
Ah oui, bah oui, si c'est des haies, c'est bon, ça devrait le faire, mais j'aimerais bien savoir mon niveau sur cette épreuve sans avoir fait 15 disciplines avant, quoi.
Vous êtes étudiant aussi ? Est-ce que c'est facile de combiner les deux, justement, et les études et les entraînements avec les compétitions ?
Ouais, parce que mon école, donc à Winsport School à Laval, en fait, je peux concilier sport-études, donc... C'est ça qui est bien avec cette école, c'est que du coup, je peux aller m'entraîner quand il le faut et il m'envoie tous les cours par mail, donc j'ai pas besoin de forcément d'être présent tout le temps, quoi. Donc ce sera dans le management du sport, alors c'est tout ce qui est, c'est pas entraîneur tout ça, mais c'est plus derrière tout ce qui est côté business, organisation, événementiel, tout ça, communication. Donc après, je sais pas exactement quoi faire plus tard, mais on verra.
Comment est-ce que vous la voyez maintenant cette année, maintenant que ça y est, il y a ce titre de champion du monde espoir ?
Bah, ça doit rester du jeu. Parce que c'est du sport, donc ça aura resté du jeu. Voilà. On est dans des choses particulières qui sont des épreuves multiples. Je crois que Hugo n'a pas souligné en fait l'ambiance qui règne dans ces épreuves combinées. Et je crois que c'est ça aussi qui le branche, parce qu'il y a une vraie ambiance, et sans doute plus que sur des épreuves individuelles. Donc comment on la voit ? Bah, essayer de se préparer, puis essayer de s'amuser surtout. Qui trouve du plaisir là-dessus, voilà.
Alors, on parlait de cette ambiance, c'est vraiment très particulier, une épreuve d'icosathlon sur deux jours comme ça ?
Ah bah oui, bah de toute façon, si on peut le terminer, c'est grâce à cette ambiance-là. Hein. Vraiment, tous les athlètes, on est tous unis, on s'entraide, on est tous dans la même galère, si on peut dire. Donc vraiment, c'est ça qui fait les épreuves combinées. Déjà, dans un décathlon de base, il y a une bonne ambiance, mais alors là, dans un icosathlon, je peux vous dire, c'est le double. Donc vraiment, bah, c'est ça qui fait qu'on prend énormément plaisir à pratiquer de l'athlétisme avec tous les autres athlètes qui s'entraînent, qui nous encouragent. Donc c'est ça qui est cool, vraiment. Bah, c'est ça vraiment que j'adore le plus. Hein. C'est vraiment cette bonne ambiance, en fait, toujours ce positif qu'il y a à chaque fois à faire de l'athlétisme, à faire des épreuves combinées. Donc c'est ça qui donne envie d'en faire, en fait.
Même question, comment est-ce que vous voyez là l'année qui est en train de s'ouvrir ?
Et bah, c'est ma dernière année en espoir, donc je vais profiter surtout, j'ai bien profité, essayer de kiffer un max comme j'ai fait à l'Écosathlon, puis bah après on verra quoi. Moi je suis pas du genre à me projeter. Donc vraiment je prends au jour le jour et puis bah on verra. Le but, c'est comme il a dit, de prendre plaisir, donc on verra bien.
Est-ce que ça incite, peut-être ça donne exemple à d'autres athlètes qui auraient envie, alors peut-être pas de faire l'icosathlon parce que c'est quand même très particulier, mais en tout cas de se lancer sur ce genre d'épreuve ?
Alors après, il y a des jeunes qui viennent pour du sport plaisir et découvrir, d'autres pour la compétition. Là, c'est du plaisir mais douloureux, je pense. Voilà, hein, il a encore quelques douleurs. Là, voilà. C'est un plaisir un peu douloureux. Je sais qu'il en parle avec les autres athlètes, notamment les plus jeunes. On verra. Est-ce qu'on va passer à quelque chose de généralisé sur le club ? Je pense pas quand même.
À voir en tout cas dans les prochaines années, en sachant que le club de Saint-Berthevin a aussi parmi ses licenciés Gabriel Bordier, qui est allé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été et est arrivé 24e sur le 20 km. On fait une petite pause musicale et on revient juste après avec notre feuilleton. On écoute Rock Me Baby de B.B. King, qui aurait fêté aujourd'hui ses 96 ans. c'était B.B. King avec Rock Me Baby. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio dans l'agité du local, l'émission quotidienne. Et nous sommes jeudi, quatrième jour et quatrième épisode de notre série autour des Journées européennes du patrimoine. Les archives départementales de la Mayenne ouvrent elles aussi leurs portes ce week-end. Alors, c'est assez classique, assez traditionnel, mais ce qui change ce week-end, c'est que vous pourrez notamment écouter plus de 1300 nouvelles archives sonores. Alors, elles ne sont pas vraiment nouvelles, mais là, elles viennent d'être numérisées. On trouve des anciennes chansons, du patois mayennais ou même des conversations d'époque. Je vous laisse donc avec les explications de Jérôme Chevreul, qui est responsable des usages numériques des fonds iconographiques et visuels, évidemment, aux archives de la Mayenne.
On a mis en ligne plus de 1300 chants et musiques traditionnelles mayennaises, et donc issus d'un collectage qui a été réalisé en 1981-1982 par l'ethnomusicologue François Redon et son ami Anne Pierrot, en collaboration avec l'association RSCM, Recherche et Sauvegarde des Coutumes Mayennaises. Donc on a 44 bandes audio et qu'on a été numérisées à la fin des années 90. Et donc il était temps de séquencer ces bandes et de les indexer grâce au fichier d'inventaire que l'association avait réalisé au début, dans les années 80, pour le diffuser sur notre site internet, pouvoir trouver les titres des musiques, les interprètes, le type de musique, si on veut rechercher une mazurka, une avant-deux, une java, une chanson de conscrit, etc. etc. Donc c'est quasiment 50 heures de musique et chant, accompagné quelquefois de témoignages des interprètes qui ont pu les chanter. Il y avait déjà une attente importante. On a été sollicité déjà par il y a quelques années par Mayenne Culture, par d'autres associations, et aujourd'hui l'association APOM aussi est avare de ces chants-là, à la fois pour le transmettre aux nouvelles générations. Et puis ça reste une de nos missions principales aussi aux archives départementales, c'est diffuser aussi les fonds que l'on conserve au plus grand nombre. Il était temps pour nous aussi de le mettre en ligne et de le plus confortablement possible aussi. On est ouvert donc le week-end, les deux après-midi, du samedi et du dimanche, de 13h45 à 18h. Il y a plusieurs aspects. Donc à l'extérieur du bâtiment, il y a une exposition sur les Mayennais à vélo, toute une histoire qu'on expose depuis juin dernier à l'occasion du Tour de France, mais sur un aspect plus populaire, donc au niveau des gens, comment le vélo s'est installé en Mayenne. Il y aura une lecture théâtralisée de Olivier Hédin de la compagnie O, voyage en Pays Ordénaire, qui est lié donc au confinement et à la chapelle Auriboul. C'est né d'un blog et c'est devenu une publication et une lecture théâtralisée donc qu'il a créée à la suite d'une résidence d'artiste aussi en juin aux archives. Et ensuite, donc à l'intérieur des archives départementales, évidemment des visites du bâtiment, des expositions d'archives inédites. Il y aura aussi la présence du cercle généalogique de la Mayenne pour ceux qui sont intéressés à la généalogie, la présentation d'archives numérisées. On présente évidemment toutes nos missions à l'intérieur du bâtiment. Alors, en effet, après, c'est de montrer nos missions, de montrer ce qu'on peut conserver, parce que ça peut vraiment intéresser tout le monde, pas que des généalogistes. Ceux qui s'intéressent au patrimoine local peuvent trouver toutes sortes de choses très intéressantes aux archives.
Petite précision, hein, la POM, c'est l'Association du patrimoine oral mayennais, dont on parlera dans une autre interview un petit peu plus tard. Vous l'avez compris, donc ce week-end, les archives vous ouvrent leurs portes toute la journée du samedi et du dimanche. Et pour assister à la lecture théâtralisée, il faudra s'y rendre à 14h30. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce jeudi. À suivre à l'antenne, ne partez pas, puisqu'à 19h, il y a du poil sous les bras autour de l'économie et des produits pharmaceutiques. L'économie des produits pharmaceutiques, il y a des choses pas très belles, vous l'entendrez. Suivi à 21h de All Blues, où évidemment c'est la rentrée pour tout le monde, mais aussi un retour vers le mois d'août avec le festival Blues in Haute-Anjou à Château-Gontier. Moi en tout cas, je vous donne rendez-vous demain à 12h15 comme d'habitude. Très bonne journée donc, et à demain.